Bras Zéro, Brassage Radio. Les 17 et 18 octobre 2025, en hommage aux martyrs algériens du 17 octobre 1961 et en soutien à toutes celles et ceux qui luttent encore contre les états coloniaux, racistes et impérialistes, ici comme ailleurs, un week-end anticolonial a été organisé à Toulouse.
Certaines d'entre nous y sont allées, elles ont écouté les tables rondes, échangé et eu envie d'en apprendre plus encore. Notamment, on a eu envie d'apprendre et d'en savoir plus sur les luttes de Tzedek et de Vietnam Dioxine. Alors, on les a invitées, tout simplement. Le temps de s'organiser, de trouver une date, on y est, 4 mois plus tard, sur le plateau de Bras Zéro à Canal Sud, avec Vietnam Dioxine 31 et Tzedek 31.
Le collectif Vietnam Dioxine a été créé en 2004 et regroupe des bénévoles, des associations, militants et militantes antiracistes qui s'inscrivent dans les luttes d'écologie décoloniale. Il se bat pour informer, sensibiliser sur l'histoire de l'agent orange et soutenir les victimes de celui-ci. La dioxine, c'est un produit ultra toxique. C'est ce que contenait l'agent orange, cet herbicide qui a été utilisé par l'armée américaine entre 1961 et 1971 pendant la guerre du Vietnam pour cramer les forêts et empêcher les guérillas de s'y cacher. C'est à la fois l'écosystème et les populations qui ont été touchées, avec des conséquences graves sur la santé. Vietnam Dioxine se bat pour demander justice pour les victimes de l'agent orange.
Le collectif Tzedek a été fondé en 2023 et regroupe des militants juifs et juives issus des luttes antiracistes et anticolonialistes. Ils luttent contre le racisme d'État en France et contre la colonisation et l'apartheid en Palestine. Tzedek, ça renvoie au concept de justice dans la tradition juive, un concept qui doit, pour les membres du collectif, être au cœur du combat antiraciste. On peut lire dans le manifeste « Nous refusons de séparer la lutte contre l'antisémitisme des autres combats antiracistes et souhaitons participer à la construction d'un projet politique de justice pour tous. »
Alors bien sûr, le contexte actuel de la poursuite de la guerre à Gaza, de la destruction du droit international et de la montée du fascisme dans le monde ne sont pas étrangers à notre envie de vous recevoir dans l'émission. Mais plutôt que de vous faire réagir à chaud sur des actualités qui vont beaucoup trop vite et qui sont à peine croyables, on a plutôt envie de vous entendre sur ce qui fonde vos luttes, pour laisser de la place à d'autres récits et faire contrepoids aux réécritures permanentes de l'histoire, notamment des histoires coloniales. Bonne écoute.
Bonsoir. Du coup, on est avec Vietnam Dioxine et Tzedek sur le plateau de Bras Zéro. Du coup, on vient de présenter vos deux collectifs dans l'intro. Est-ce que, pour commencer, il y a des choses que vous avez envie de soit rajouter, soit préciser sur ce qu'on vient de dire? Peut-être Vietnam Dioxine, si vous voulez commencer.
Bonsoir. Du coup, est-ce qu'on pourrait nous rajouter par rapport à la présentation? C'est que le collectif s'organise aussi pas mal autour du procès qui a lieu en ce moment depuis la France, le procès de Trentonia, des firmes américaines qui ont fabriqué l'agent orange et rajouter le fait que l'agent orange a des conséquences graves encore aujourd'hui. Il y a encore des personnes qui naissent malades à cause de l'agent orange, donc c'est une question qui n'est pas du passé, qui est vraiment actuelle. Et le procès se tient en ce moment en France parce que Trentonia est la dernière personne à pouvoir porter le procès parce qu'elle remplit 3 conditions. Le fait d'avoir subi les épandages, donc comme vous avez pu dire dans les années 60, donc il n'y a plus grand monde qui les a subis déjà de l'époque. Et le fait de pouvoir porter le procès depuis un pays qui autorise les procès internationaux, la France l'autorise, et d'avoir la nationalité du pays. Ce qui fait que Trentonia remplit ses conditions et qu'il n'y a plus grand monde qui remplit des conditions identiques pour pouvoir porter le procès et pouvoir faire reconnaître devant une juridiction internationale la responsabilité des firmes américaines sur la question de l'agent orange et ouvrir la voie aux victimes vietnamiennes de pouvoir obtenir des réparations.
Bonsoir. Du coup, pour Tzedek, j'aimerais bien juste ajouter la question que Tzedek se positionne comme un collectif anti-sioniste, parce que nous, on voit dans le sionisme l'idéologie derrière les projets coloniaux israélien. Et surtout, aujourd'hui, on a un projet de loi qui est en cours pour passer la loi Yadan, qui c'est une loi qui essaye de criminaliser justement la critique du sionisme. En faisant, avec une excuse de lutter contre l'antisémitisme, en amalgamant justement l'antisémitisme et l'antisionisme. Et nous, on pense que c'est très important de séparer les deux, parce que le judaïsme et le sionisme ne sont pas la même chose, et ne sont pas du tout la même chose. Et le sionisme, c'est une idéologie coloniale, raciste, derrière un projet colonial européen. Et on pense que c'est toujours important de continuer de pouvoir dire ça. C'est pour ça que c'est important aussi dans ces moments où cette loi risque de passer, de les rappeler.
Ok. Donc avant de repartir vraiment sur ce que vous faites concrètement, on aime bien à Bras Zéro aussi les petites histoires. Et du coup, on se demandait déjà si vous pouvez vous présenter individuellement, puisqu'on ne l'a pas encore fait, mais aussi peut-être de nous raconter comment vous êtes rentré dans votre collectif et pourquoi. Qu'est-ce qui vous a amené à ces luttes-là?
Bonjour, je suis Queen du collectif Vietnam Dioxine de Toulouse. Et j'ai rejoint le collectif il y a à peu près presque un an maintenant. Et j'ai rejoint le collectif à la base parce que je commençais à m'intéresser sur toutes les questions de l'écologie décoloniale et la question de comment le désastre écologique affecte les peuples les plus marginalisés, que les peuples colonisés. Et comment on lutte contre ça, comment lutter contre le colonialisme. Et il y avait aussi, moi j'étais arrivée à Toulouse il y a 2 ans, et à cette époque-là, j'avais vraiment envie de me connecter aussi avec d'autres personnes asio-descendantes pour à la fois me relier un peu à mon histoire personnelle, mais aussi avoir une connexion politique sur les questions militantes. Et c'était un peu le bon moment parce que, en fait, le collectif Vietnam Dioxine a organisé l'année dernière une journée à la chapelle pour sensibiliser sur la question de l'agent orange. Ils ont fait une projection à la Bourse du Travail et des ateliers à la chapelle. Donc, c'était suite à cette journée-là que je commençais vraiment à m'intéresser aux actions du collectif. Et maintenant, je suis là et merci de nous accueillir.
Et du coup, rebonsoir. Moi, c'est Alexandre. Je suis rentré au collectif Vietnam Dioxine quand il n'y avait pas encore l'antenne à Toulouse. Et en fait, on a été deux à rentrer en même temps parce que le collectif s'organise aussi pas mal sur Internet. Ce qui permet aux personnes qui sont éloignées du cœur qui est à Paris de pouvoir participer au collectif. Et ce qui est une chose que je trouve un peu rare dans le monde militant. Et on était deux à Toulouse à rentrer en même temps et du coup on s'est mis en contact. Et nous, la question qui s'est posée, c'était aussi de vouloir s'organiser entre personnes et beaucoup IRL, comme on dit. Et j'arrive même pas à trouver les mots. et du coup, il y avait cette envie aussi de... On est deux personnes qui avons été coupées de toute culture vietnamienne du fait de l'histoire coloniale. Pour ma part, moi... Mon père est né en 55 au Vietnam et il est arrivé en 56 et il a été placé en 63 à la DAS. Et du coup, il n'a pas du tout connu ses parents et donc il n'a pas connu le Vietnam du tout non plus. Du coup, il ne m'a rien transmis du tout et moi j'avais ce besoin-là de reconnecter et de faire vivre en fait cette partie de moi qui avait été complètement... invisibilisé à l'école, pareil, on n'en parle pas, etc. Enfin, à part. Et du coup, voilà, il y avait vraiment ce besoin-là. L'autre personne qui a rejoint le collectif avait un peu les mêmes enjeux aussi. Et du coup, toute la question était de comment on connecte sur des questions politiques, comment on se connecte, comment on fait une connexion diasporique. D'où les ateliers calligraphie, les ateliers sur la cuisine avec le lien décolonial et véganisme, qui ont hyper bien fonctionné au final. Et voilà un peu les enjeux qui ont poussé à rejoindre le collectif.
Merci. Bonjour, moi c'est Sarah. J'ai rejoint CEDEC il y a 2 ans, un an et demi peut-être, je ne sais plus exactement. En fait, moi, les raisons qui m'ont poussée à rejoindre à la base, c'est l'après 7 octobre 2023 où... depuis longtemps, j'étais un peu dans le déni de ce qui se passait. Et là, je ne pouvais plus fermer les yeux. Et à ce moment-là, on était en plein moment de bombardement, de génocide, quoi. Et toutes les voix juives qu'on pouvait entendre dans les médias ou quoi, c'était toujours des voix très sionistes, qui légitimaient des horreurs, quoi. Et du coup, moi, ça... Ça m'a un peu fait me questionner sur ce que ça voulait dire être juif. Et limite, j'étais en train de me dire, il faut que je me coupe. Si je veux rester dans l'humanité, dans les yeux ouverts, quoi, va falloir que j'arrête d'être juive. Mais je ne pouvais pas, ça fait partie de mon identité, quoi. Et en fait, après, j'ai découvert CEDEC sur les réseaux sociaux. Et là, j'ai vraiment lu tout ce qu'ils avaient écrit. Et ça m'a fait beaucoup de bien, ça a vraiment résonné, même si j'avais pas beaucoup j'avais pas beaucoup de connaissances ou quoi que ce soit sur le sujet, mais ça, vraiment il y avait une lecture de la situation qui m'a un peu fait du bien et qui m'a aussi fait me reconnecter aussi avec ma part juive. Et voilà, et après il y a une personne de Paris qui est venue faire une conférence à Toulouse, et du coup j'y suis allée, de là j'ai rencontré des personnes... qui était à CEDEC à Toulouse, et du coup on a pris le contact et ça s'est fait un peu naturellement. Enfin, j'avais jamais été dans des espaces militants ou quoi que ce soit, mais là il y avait quelque chose d'une sorte d'évidence de il faut faire quelque chose, quoi. Enfin, faut pas rester dans l'horreur et sans pouvoir rien faire.
Et bonsoir, moi c'est Dani, et un peu pareil que Sarah en fait. Avant le 7 octobre, moi, j'avais jamais, jamais de ma vie envisagé de m'organiser en tant que personne juive dans un collectif. Je ne sentais pas les besoins, même si je trouvais que c'était... J'ai connaissé aux États-Unis, il y a un groupe qui s'appelle Jewish Voice for Peace, qui est un groupe antisioniste, et je suivais ces groupes dans les réseaux, je lisais des choses qu'ils écrivaient, mais je ne sentais pas les besoins de m'organiser dans ce sens-là. J'étais organisée politiquement dans d'autres collectifs, dans d'autres groupes, et notamment des groupes féministes, les groupes révolutionnaires. Et c'était après le 7 octobre que je me suis vraiment, j'ai vu qu'est-ce qui s'est passé en France, comment il y avait une instrumentalisation de l'antisémitisme, une instrumentalisation de l'identité juive, pour justifier les génocides du peuple palestinien. Et c'est, pour moi, c'était un moment vraiment qui a fait basculer beaucoup de choses, parce que ça m'a vraiment confrontée pour moi. Je suis une personne juive, je me reconnais en tant que personne juive, mais là, en ces moments, je me suis vue aussi en tant que personne juive et un sujet politique qui a besoin de prendre des positions politiques pour confronter quelque chose qui était vraiment utilisé pour massacrer des gens. Et c'est comme ça que j'ai trouvé CEDEC. Et il y avait une personne à Toulouse qui m'avait parlé d'une camarade qui voulait monter une antenne de CEDEC à Toulouse. Et moi, j'étais un peu hésitante au début, mais après, il faut qu'on occupe des espaces, surtout parce qu'à ce moment-là, il y avait un phénomène qui existe, qui s'appelle les sionistes de gauche, qui occupaient beaucoup les espaces de parole en utilisant l'identité juive pour justifier le sionisme et pour faire une critique qui était seulement une critique du gouvernement israélien, le gouvernement de Netanyahou, mais pas une critique de l'essence de l'État israélien, qui c'est un État colonial. Et du coup, ça entrait beaucoup dans des espaces féministes, dans des espaces queer, et je trouvais que c'était important d'avoir une autre voix, une voix anti-sioniste, du coup.
Merci beaucoup pour tous ces témoignages. Alors aussi, vous avez un point commun, enfin parmi d'autres, hein, mais vous avez plusieurs points communs dans vos deux collectifs, et notamment celui de vous organiser, d'être un groupe local d'un mouvement national, un groupe qui s'organise au niveau national. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu déjà quelles sont les actions que vous menez au niveau local, comment vous vous organisez au niveau local, mais aussi peut-être quels sont les enjeux d'être un groupe local dans un mouvement national. Je vous regarde vous.
Oui, je peux parler pour le collectif Vietnam Dioxine. Donc, comme Alex en avait parlé tout à l'heure, le collectif est très actif à Paris. Et depuis quelques années, du coup, on essaie de monter des choses à Toulouse, un peu qui correspond un peu plus aux réalités locales, on va dire. Et nous, ce qu'on fait à Toulouse, ça passe beaucoup plus par la sensibilisation du grand public. Parce qu'on a aussi à la fois la sensibilisation et aussi on a déjà une envie de se rapprocher de notre communauté aussi asiatique à Toulouse, enfin surtout indo-chinoise, parce que du coup en fait beaucoup de personnes dans le collectif, on a ce point commun d'être un peu dépossédés de nos origines et il y a cette envie de reconnecter et de parler de ces questions à la fois politiques et à la fois assez intime et d'avoir un espace pour pouvoir questionner les choses et militer ensemble. Et depuis, on fait beaucoup d'événements comme des projections. On essaie d'organiser des ateliers comme l'atelier calligraphie ou l'atelier de cuisine qu'on a pu faire à La Chapelle. Des moments de discussion où on peut être entre nous et questionner un peu tout ça aussi. On essaie de se greffer pas mal à des événements entre collectifs comme la journée du week-end des coloniales en octobre dernier. Et participer du coup à des événements qui se tournent autour de l'antiracisme, l'anti-impérialisme à Toulouse. Et ce qu'on a envie de faire aussi, surtout dans l'antenne toulousaine, c'est aussi d'amener tout ce questionnement autour du procès et autour de l'écologie décoloniale et pourquoi c'est important de s'y intéresser. Donc voilà, c'est aussi une envie de s'intégrer dans la sphère militante toulousaine et trouver notre place en tant que collectif entre personnes vietnamiennes, indo-chinoises.
Et j'ai envie aussi d'expliquer un enjeu, c'est qu'à Paris, il y a une association communautaire qui existe depuis assez longtemps et où il y a de l'accompagnement à la scolarité, il y a beaucoup de choses qui sont organisées et en fait, du coup, la diaspora à Paris est... à des espaces des espaces culturels où il y a beaucoup de vie qui s'y passe. Et nous, depuis Toulouse, quand on regarde tout ce qui peut se passer sur les questions des vietnamités, etc., il y a beaucoup de choses qui se passent justement à Paris. Et l'enjeu un peu que nous on avait sur Toulouse, c'était de comment on fabrique aussi cette connexion-là. Du fait d'avoir été coupé de toute communauté et comment on va vers une communauté pour laquelle on... moi, j'ai un white passing qui est hyper fort, c'est-à-dire que tout le monde me dit qu'on ne voit pas que j'ai des origines vietnamiennes. Et du coup, à quel moment donné on se sent légitime de parler de ses origines? À quel moment donné on se sent légitime d'avoir un discours politique sur les questions de diaspora, sur les enjeux antiracistes, quand on a un white passing qui est fort, à quel moment donné on peut aussi venir comment dire, parler d'une histoire qui date de avant notre naissance, tout en étant coupé de la communauté, en n'ayant jamais grandi dedans. Et du coup, quels sont les genres d'espaces qu'il faut fabriquer? Et à Toulouse, il n'y a pas cette organisation communautaire. Et donc l'enjeu, c'est un peu de fabriquer les deux en même temps, à la fois s'organiser politiquement, mais à la fois aussi s'organiser sur les questions identitaires et de retour vers la culture en gros. Et le fait de faire fonctionner les deux en même temps, ça s'imbrique bien et on arrive à se regrouper entre personnes qui se sentent isolées sur ces questions-là.
Juste, tu as utilisé le terme de white passing. Peut-être pour les auditoristes qui ne connaîtraient pas, tu peux juste nous dire, expliquer ce que c'est.
Alors, je ne sais pas si j'ai pas de définition scientifique à donner, mais en tout cas, moi je dirais que c'est quand tu as un vécu d'une personne issue des colonies, mais que tu as un faciès blanc, même ou une culture qui est blanche parce que tu as été coupé ou parce que ça se voit beaucoup moins sur toutes les personnes qui sont métisses. Souvent, elles grandissent dans le truc où les parents, quand ils arrivent en France, essayent de jouer le jeu de l'intégration, donc efface les noms, efface la langue, efface tout ce qui est culturel dans les origines, et du coup ça fabrique une identité blanche qui n'est pas réellement la nôtre, et c'est un peu ça qui constitue pour moi le white passing. Mais du coup quand il s'agit de parler d'antiracisme, on a du mal à remobiliser nos vécus familiaux et de dire que ces vécus-là sont légitimes. Le fait que moi je défends aujourd'hui, je défends beaucoup le fait que la DAS est une politique de continuité coloniale, mais parce que du coup grâce au fait que je peux venir rechercher dans mon origine vietnamienne à quel point la DAS et les, bon aujourd'hui c'est l'ASE, les enfants placés, à quel point les politiques jeunesse aujourd'hui en France ne permettent pas de faire une continuité par les politiques d'intégration et d'assimilation, ne permettent pas de faire une continuité identitaire et de se développer dans du multiculturalisme. Et ça constitue une continuité coloniale dans l'éducatif.
Oui, la question c'était comment on s'organise localement. nous, de notre côté, on essaie de faire lien un petit peu avec les collectifs locaux, notamment avec le comité de soutien avec la Palestine. On participe à des événements. On a fait pas mal de quelques projections de films en fait pour sensibiliser les gens justement à comprendre. Pour comprendre un peu la différence entre sionisme, judaïsme, antisionisme, antisémitisme, qui sont souvent servis pour instrumentaliser justement la lutte contre l'antisémitisme pour défendre Israël, en fait. Oui, dans les films qu'on avait projetés, il y a notamment, je le dis parce qu'il va repasser, il y a le film qui s'appelle Lyd, L-Y-D. Il repasse pour Ciné-Palestine du coup le 16 février, donc si vous n'avez pas pu le voir quand on l'a projeté, vous pourrez retourner le voir, il est bien. Il passe au cratère. Après oui, voilà, pour s'organiser, comme Dani l'a dit tout à l'heure, il y a aussi l'enjeu d'occuper l'espace pour éviter que les sionistes de gauche l'occupent et du coup en visibilisent et fasse taire la parole palestinienne sous prétexte que il y aurait peut-être de l'antisémitisme ou quoi que ce soit, mais du coup c'est hyper dangereux comme discours parce que ça a empêché en tout cas par le passé certains collectifs de se positionner par peur d'être antisémite à cause de ce genre de discours quoi. Voilà.
Oui, et juste pour ajouter, par rapport à Paris, enfin, TEDx, c'est très, très nombreux à Paris. C'est l'antenne la plus nombreuse. Enfin. Et à Toulouse, on est un petit groupe. On commence à grandir un peu. Mais c'est vrai qu'il y a une centralité, je pense, des événements toujours à Paris. Paris centralise beaucoup de choses en France. Et on a pensé qu'à Toulouse, c'était intéressant aussi de créer des espaces où des gens puissent venir discuter, où des gens puissent venir échanger, des espaces de débat, d'organiser des choses avec d'autres collectifs qui militent déjà depuis des années sur la question de la Palestine. Il y avait, avant à Toulouse, il y avait les collectifs Palestine Vaincrax, qui a fait un super travail des années et des années pour comprendre la question coloniale, l'effet colonial israélien. Ces collectifs, il a été dissous, mais aujourd'hui, il y a le comité de soutien à la Palestine. On a organisé pas mal de choses ensemble et je pense que c'était surtout une volonté de faire vivre à Toulouse cette parole antisioniste, c'est cette existence des personnes juives antisionistes. Et par rapport à Paris, c'est vrai que quand on voit toutes les choses qui se passent à Paris, ce que les camarades de TEDx organisent à Paris, c'est énorme. Mais nous, à notre échelle, on essaye et on est toujours en lien en train d'échanger et d'apprendre des choses et de faire vivre des choses aussi en dehors de Paris.
On fait une petite pause musicale. Du coup, le prochain morceau, c'est un morceau parce qu'on a l'habitude aussi de demander au collectif qu'on invite de nous proposer des musiques. C'est un morceau qui a été proposé par TEDx. Est-ce que vous voulez bien nous dire deux, trois mots sur pourquoi cette musique et qu'est-ce que c'est ?
Oui, alors on a choisi de proposer le titre « Combat » de l'artiste qui s'appelle Young Yud. Et c'est un jeune artiste toulousain. En fait, dont l'identité juive, elle est centrale vraiment dans son identité artistique et qui parle un peu de son antisionisme, et notamment dans cette chanson où en gros, il parle de cette position-là et aussi un peu de la difficulté de se retrouver un peu en contradiction face à la communauté juive actuellement. Voilà, un peu le décalage.
Et il est membre de TEDx.
Yes.
Messieurs les censeurs, bonsoir.
Ok, sorry.
Tous les jours en présent, comme si j'écris mon combat. À la fenêtre, c'est tranquille, mais sur l'écran, ça pompe. Je vais toujours à l'inverse jusqu'à pointer le compas. J'ai toujours fait défaut jusqu'à ce que là, j'ai fait le bon pas. Tous les jours en prison, comme si j'écris mon combat. À la fenêtre, c'est tranquille, et sur l'écran, ça pompe. Toujours à l'inverse jusqu'à pointer le compas. J'ai toujours fait défaut jusqu'à ce que là, j'ai fait le bon pas. Samedi, kayaté, car je suis fire pour le souper. Faut pas te taillader, car je te laisse en dessus de soubé. Mais j'suis pas ingrat pour un sou. J'sors même pas de chez moi et j'aime des trucs un peu refaits. On tolère pas dans le coin la drogue qui commence par un C. Toujours au pied du mur quand il s'agit de se balancer. À part tes propres lamentations, personne n'arrêtera ta lancée. Pourtant c'est toujours eux-mêmes qu'on tient la main pour avancer. J'vis à une époque bizarre, des fachos sous des keepers. J'ai du mal à la défendre quand je vois de trop près mon équipe. J'ai les mains qui tremblent quand ils parlent, et les mecs qui se barrent sont niqués. Moi j'fais pas d'alia, moi j'saurais pas courir comme Mickey. C'était une tragédie, c'est devenu quasi comique. Bienvenue sur le plateau, entre les guests et les chroniqueurs. Bientôt j'renonce à ma vue, comme j'suis trop fan d'électronique. Tant pis j'aime la mota, faut que le regard de ces jolis cœurs. Je sais bien ce que ça implique, je fais pas l'on veut s'embriquer. Je sais pas quelle mouche m'a piqué, c'est la que je revendique. L'exploit à bord du Nautilus, j'aime pas trop qu'on m'utilise. C'est pas justifié les enfants gazaouis qui sont mutilés. Dans l'autre joue à Ponce Pilate, tant pis ce que ça fait jubiler. Il paraît que la terre était sainte, mais sous les débris empilés. La tête souvent près du mur, mais c'est pas toujours pour prier. RPZ, les syndicats solidaires comme les ouvriers. Encore ce matin, c'est le bruit des potes qu'on voit venir sur les bords de la France. Ceux qui parlent en vain, qui crient, c'est pas mes potes. La police nationale fut fondée à Drancy.
parler, qui font critiquer la rédaction. Tu as choisi tous les peuples next. Tous les jours en prison, comme si j'écris mon combat. À la fenêtre, c'est tranquille, mais sur l'écran, ça pompe. Je vais toujours à l'inverse, jusqu'à pointer le compas. J'ai toujours fait défaut, jusqu'à ce que là, j'ai fait le bon pas. Tous les jours en prison, comme si j'écris mon combat. À la fenêtre, c'est tranquille, et sur l'écran, ça bombe. Toujours à l'inverse, jusqu'à pointer le compas. J'ai toujours fait défaut, jusqu'à ce que là, j'ai fait le bon pas.
Et vous êtes toujours sur Brasero à Canal Sud 92.2. On est avec les des personnes de TSEDEC et de Vietnam Dioxine. TSEDEC, donc, vous êtes un collectif de personnes juives. Vietnam Dioxine, je ne sais pas si c'est revendiqué comme tel, mais en tout cas au niveau local, vous vous réunissez et vous organisez entre personnes d'origine asiatique. On se demandait qu'est-ce que ça représente pour vous, cette non-mixité dans vos collectifs. Pourquoi vous avez fait ce choix et avec quel enjeu et... voilà.
Alors du coup, pour nous, dans le collectif Vietnam Dioxine, en tout cas à Toulouse, on n'est que des personnes du coup asio-descendantes pour l'instant. Et je pense que la non-mixité, c'est très important pour nous, déjà pour reconstruire un peu collectivement notre histoire commune. Bah, comme je disais avant, le fait d'être... pour beaucoup d'entre nous, des personnes enfants d'immigrés qui habitent maintenant dans l'Occident et qui ont été dépossédées un peu de leur histoire, bah, se réapproprier du coup en non-mixité, ça permet de se réapproprier cette histoire-là en collectif. Et aussi bah, pouvoir parler de choses qui sont peut-être plus difficiles à amener dans un contexte où il y a des personnes blanches qui peuvent ne pas comprendre. Donc dans notre cas, pour le Vietnam, il y a des sujets assez complexes parce que c'est un pays qui est très divisé, nord, sud, etc. Et c'est important pour nous aussi de créer cet espace-là où on peut s'exprimer parce que bah, on n'est pas forcément d'accord entre nous, avec nos parents, etc. Et bah, le fait déjà de pouvoir centrer nos récits alors que bah, dans d'autres espaces militants, peut-être on est souvent aux marges, et bah, pouvoir être dans le centre et remettre un peu les personnes qui d'habitude sont dominantes dans la marge. Et j'ai aussi envie d'ajouter que bah, beaucoup d'entre nous ont vécu du racisme, un racisme assez spécifique aux Asiatiques. Je me rappelle que dans les années 2000, je ne sais pas si vous avez un peu connu le racisme anti-asiatique des années 2000, c'est un peu... t'as les yeux bridés, tu parles chinois, etc. Et en fait, ce racisme s'est un peu transformé au fur et à mesure des années, avec le Covid, et puis après, on est repassé à une certaine fétichisation des origines asiatiques. Et c'est un sujet qui nous touche. Et je pense que en fait, on avait un peu discuté du coup avec SEDEC avant de venir. C'est le fait que nos collectifs ont en commun cette instrumentalisation du fait qu'on soit perçu comme des minorités modèles. La minorité asiatique est vue comme des travailleurs, des personnes qui sont bien intégrées dans l'Occident, et tout ça, en fait, ça constitue une identité asiatique qui nous affecte. Et c'est pour répondre à la question de non-mixité, on a besoin de cet espace pour reconstruire un peu tout ça.
Merci.
Oui. À TSEDEC, c'est vrai qu'il y a un peu les mêmes enjeux d'être en non-mixité. C'est le fait, pareil, de pouvoir discuter entre nous, parce que forcément, on est un collectif qui remettons pas mal en question de notre communauté. Du coup, le fait de pouvoir en parler entre nous, déjà, on n'a pas besoin de mettre de filtre non plus, comme disait Queen, de ne pas avoir besoin de contextualiser ou quoi pour pouvoir parler de nos vécus. Donc ça, déjà, ça fait du bien. Et ensuite, il y a aussi l'enjeu Enfin, il y a certaines personnes dans le collectif de Tzedek qui ont été en rupture familiale de par leur position antisioniste. Et du coup, ça permet aussi de refaire un peu communauté, pour, notamment pour ces personnes-là, du coup, et de pouvoir retrouver des espaces de pratique, de cérémonies, de fêtes religieuses, entre autres, et dans des espaces safe, antisionistes. Et c'est déjà... Ça fait du bien, quoi. Et voilà, et par rapport à l'histoire de... Oui, d'être en minorité modèle, c'est vrai qu'on en avait pas mal... Enfin, on en a un peu discuté quand on avait préparé l'émission, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a en commun, où en fait, on se sert de nos identités pour taper sur d'autres minorités, pour exacerber le racisme, l'islamophobie, tout ça. Et du coup, le fait de pouvoir se retrouver entre nous, on peut aussi réfléchir à comment combattre ça aussi, comment... réfléchir à contrer ce genre de discours et à ne pas être instrumentalisé.
Alors, vous êtes aussi deux collectifs qui mènent une lutte décoloniale. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que, pour vous, ça signifie concrètement dans vos luttes, cette lutte décoloniale?
Alors pour nous, la question de décolonisation est assez centrale. En fait, nous, au collectif, on rappelle souvent que l'histoire coloniale affecte plein d'aspects quotidiens des personnes racisées aujourd'hui, et aussi sur des questions de genre, de capitalisme, de racisme, et même mêlées à des luttes environnementales, etc. Et bah, pour les personnes racisées, ça nous affecte dans l'intime, dans la sphère familiale. Et je pense que c'est une question qui vous touche aussi, Cédec. Je prendrai aussi l'exemple de la Palestine pour parler de décolonisation. Parce que du coup, ben, y a une colonisation qui est en train de se faire par Israël et qui se fait un peu passer pour une guerre idéologique, alors que quand on s'intéresse vraiment à la question, ce n'est pas le cas. Donc pour nous, en fait, en tant que collectif, c'est important de faire cet exercice de mémoire collective. Bah, déjà, la colonisation du Vietnam, comment ça entre dans toute cette lutte décoloniale globale, enfin... de comment la colonisation occidentale affecte les peuples racisés, les peuples autochtones d'hier et encore aujourd'hui. Donc ça a encore ses effets sur les anciens peuples colonisés. Donc je prends l'exemple de l'agent orange qui, comme Alex avait mentionné tout à l'heure, donc qui affecte encore... des personnes aujourd'hui. En fait, ben, du coup, l'agent orange contient un poison qui se transmet encore... aujourd'hui, et il y a encore des personnes qui naissent avec des malformations, des cancers, etc. Donc, je pense que la lutte de décolonisation est centrale et je pense qu'il faut continuer à en parler. Et dans cette lutte, ben, on a aussi besoin de se connecter avec d'autres collectifs comme Cédec. Pour la Palestine, donc même si nos luttes ne sont pas les mêmes, on a beaucoup de points communs, donc c'est très intéressant d'en parler aujourd'hui.
Oui, et justement, c'est vrai que oui, aborder les luttes par le prisme décolonial, c'est vraiment faire du lien entre toutes les luttes qui, parfois, on a l'impression qu'elles sont vraiment isolées, qu'elles n'ont rien à voir, mais en fait, derrière, il y a vraiment tout le temps, il y a une continuité en fait coloniale, par exemple. Ce qui s'était passé au Vietnam avec les épandages d'agents orange, on le retrouve encore. Là, il y a un mois, il y a eu des épandages de glyphosate aux frontières libanaises et syriennes par Israël, en fait. Et c'est encore les mêmes manières de procéder. Et c'est vrai que si on... En faisant une lutte décoloniale, c'est se dire que si on se bat pour la reconnaissance des responsabilités de ce qui s'est passé au Vietnam, c'est se battre aussi pour éviter que ça recommence aujourd'hui. Alors malheureusement, on n'a pas ce pouvoir-là, mais le fait d'avoir cet enjeu mémoriel, c'est faire le lien entre ce qui c'est le passé, le présent, et voilà, faire le lien entre toutes les luttes, puisque à chaque fois, il y a toujours cet enjeu de dépossession des corps, des terres, des cultures qui est toujours présent, et c'est ça contre quoi on lutte.
Et aussi, du coup, on peut, par rapport à la Palestine, ce qu'on peut rajouter du fait de voir comment le procès, de Trentonia, qui a lieu aujourd'hui, donc on est en 2026, et la guerre a pris fin en 1975, donc ça, les conséquences continuent largement après une victoire, ce qu'on appelle une victoire et ce qu'on appelle une libération. Mais quand on regarde du coup les effets de l'agent orange qui ont encore des impacts aujourd'hui, et que il y a une bataille réelle à mener, ne serait-ce que pour pouvoir réussir à faire écrire dans le droit, faire rentrer des concepts comme l'écocide par exemple, qui va au-delà de ce que le droit international permet de pouvoir juger dans des cours de justice. C'est toute la question de la bataille pour les réparations et l'enjeu qu'il y a aujourd'hui pour la Palestine, c'est certes de visibiliser les enjeux de la guerre, c'est visibiliser le fait que c'est un génocide, visibiliser ce qui se passe, mais quand on arrive à ensuite projeter si demain, par on ne sait quelle opération, le peuple palestinien obtient une victoire et récupère du coup ses terres, il y aura malgré tout des dégâts qui seront là pour on ne sait pas combien d'années, on ne sait pas combien de siècles, et la bataille continuera malgré tout, malgré la victoire, pour faire reconnaître les dégâts qui ont été faits et pouvoir obtenir des réparations, notamment par l'État d'Israël, mais par tous les États qui financent et par les entreprises qui font de l'argent sur cette guerre-là et sur les guerres. En fait, la guerre fabrique de l'argent, enfin, clairement. Et comment on récupère cet argent qui est fabriqué ? Par les voies juridiques, pour une partie, mais...
Oui, juste pour ajouter, je pense que c'est important toujours de rappeler que le projet colonial en Palestine, c'est un projet qui est en cours. On peut les voir sur nos portables, on voit les colons en train de voler des terres, en train de brutaliser les Palestiniens et Palestiniennes par tous les moyens, en Cisjordanie, à Gaza et au Liban. Et du coup, c'est vraiment un enjeu de visibiliser que l'Europe, elle a une responsabilité là-dedans. Et du coup, je pense que d'ici où on lutte, on a une responsabilité de lutter et dénoncer ces faits coloniaux qui est en cours. Et qui, moi, en tout cas, j'ai l'espoir qu'on peut l'empêcher. Avec tous les dégâts qui sont déjà faits, je pense qu'on a l'obligation de continuer de lutter et dénoncer par tous nos moyens.
Il nous reste encore 10 petites minutes ensemble. On se demandait si vous, Vietnam Dioxine, pardon, vous aviez une question pour Tzedek, et inversement, si Tzedek, vous aviez une question pour Vietnam Dioxine.
10 minutes ou 15 minutes, bon.
Oui, nous, on se posait la question de savoir comment vous vous différenciez. Du coup, il y a l'UJFP qui existe sur la question juive et sur le soutien à la Palestine. Et on souhaitait savoir qu'est-ce qui faisait la différence entre vos deux collectifs.
L'UJFP, c'est l'Union juive française pour la paix. Et c'est un groupe qui existe depuis les années 70, 80. Enfin, ça fait un petit moment qu'ils existent. Il n'y a pas que des personnes juives dedans, même si la majorité, ce sont des personnes juives. Et je pense qu'on travaille beaucoup ensemble, on fait beaucoup de trucs ensemble. Mais je pense que la différence principale, c'est que l'UJFP est vraiment un collectif qui a l'objectif de faire la lutte politique. Ce sont des personnes plus âgées, majoritairement plus âgées que les personnes, que la moyenne des Tzedek, on va dire. Et il y a des personnes des Tzedek qui ont fait partie de l'UJFP. Mais l'UJFP, c'est vraiment la lutte politique anti-sioniste. Et Tzedek a cet objectif un peu de rassembler des personnes et de refaire communauté, comme Sarah avait dit tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en rupture familiale, beaucoup de jeunes, des personnes qui veulent continuer de pratiquer le judaïsme, de faire les fêtes, de faire toutes les choses qu'on fait ensemble en tant que personnes juives, Shabbat, Rosh Hashanah, ce genre de choses. Et pour nous, ça, c'est très important à Tzedek. Et pour le JFP, je pense que c'est quelque chose qui, ça peut arriver, mais c'est pas leur objectif central. Et du coup, je pense que c'est la différence la plus importante. C'est que nous, on garde cette partie communautaire aussi, enfin, religieuse pour celles et ceux qui veulent.
Oui, il y avait un peu cette idée de... Il y a un peu cette différence de générationnelle où leur collectif, il s'est créé dans une période où c'était un peu plus... je ne sais pas si on dit laïcard ou... Oui. Ce genre de choses, et que nous on est dans une période où on a besoin aussi de se recentrer sur nos identités religieuses aussi. Enfin voilà, il y a vraiment cette histoire générationnelle qui est un peu différente, mais après voilà, on fait pas mal de choses ensemble et ça reste un collectif ami. Et ensuite c'est à nous de poser notre question. Quand est-ce qu'on se refait un repas? Non, je regarde.
Avec plaisir. Bientôt.
La question... Après, j'ai l'impression que vous avez déjà un peu répondu, mais c'était comment vous vous inscrivez dans la lutte antiraciste et comment vous vous positionnez face à... Enfin, vous vous sentez face à l'instrumentalisation de la minorité modèle, comme on avait dit. Mais...
Je pense que je peux quand même développer un peu, même si j'avais répondu à la question. En tout cas, en tant que personne racisée, même si on est considéré comme une minorité modèle, c'est quand même important de militer. Et en fait, moi, je pense surtout au fait que le collectif Vietnam Doxin s'est un peu monté pour casser ce mythe de minorité modèle aussi, qui est travailleur, qui est calme, qui est silencieux et qui ne résiste pas. Et ça reproduit un peu des modèles d'esclavagisation où les colons blancs voyaient les Indochinois comme des personnes travailleuses et qui ne diront rien. Et voilà, on a cette envie de militer en tant que personne racisée pour casser ce mythe et pour ne pas que notre identité soit réappropriée par des personnes dominantes pour notamment nous mettre contre d'autres personnes marginalisées, que ce soit pour utiliser notre identité pour l'islamophobie ou pour du racisme contre des personnes noires. Donc je pense que pour nous il y a cette c'est assez important pour nous de parler de notre place quand même de minorité modèle et un peu de casser ce mythe-là en tant que collectif.
Et moi, du coup, j'ai bien envie de vous retourner la question à vous aussi à propos de l'antiracisme et de l'antisémitisme et comment ça se déplie dans votre collectif.
Moi, je pense surtout, nous, on pense que c'est très important aujourd'hui en France de lutter contre toute forme de racisme, mais très, très, très important la question de l'islamophobie, surtout quand il y a une instrumentalisation des questions de l'antisémitisme pour attaquer les communautés musulmanes, les personnes musulmanes en France, notamment avec des théories qui veulent dire les nouvelles antisémitismes, que ça viendrait des quartiers populaires, que ça viendrait des communautés musulmanes, et que du coup, il n'y a pas d'antisémitisme en France, que l'antisémitisme qui existe viendrait de ces communautés-là. Et du coup, nous, on veut combattre ça, parce que ce n'est pas vrai. Et surtout, beaucoup des choses qui sont identifiées en France aujourd'hui comme antisémitisme, ce sont tout simplement la critique de l'État colonial israélien. N'empêche qu'on a besoin de continuer de lutter contre l'antisémitisme, mais on pense qu'il ne faut pas, comme Sarah avait dit aussi tout à l'heure, il ne faut pas mettre l'antisémitisme dans une espèce de place spéciale À part de tous les autres luttes antiracistes, l'antisémitisme se lutte avec tous les autres antiracismes, contre tous les racismes qui existent en France, à côté de nos frères et sœurs musulmanes, à côté de nos frères et sœurs personnes migrantes, personnes sans papiers, qui subissent le racisme toujours dans ces pays. Et pour nous, il y a une urgence de lutter ensemble et de combattre ensemble ces systèmes qui écrasent beaucoup de vies, qui sont les systèmes du racisme.
Bah, merci beaucoup. Je propose qu'on fasse encore une petite pause musicale avant de conclure l'émission. Cette fois, c'est la musique que Vietnam Dioxine nous a proposée. Est-ce que vous voulez nous dire ce que c'est ?
Alors c'est un clip de Hoàng Thu Linh et j'ai plus le titre en tête, mais il a été choisi parce que la direction artistique du clip est juste incroyable. Il mélange la modernité de ce qu'on peut faire avec les ordinateurs et l'imagerie hyper traditionnelle, et vraiment c'est vraiment magnifique à regarder. Vous aurez que le son, mais je vous invite à aller regarder cet artiste sur les vidéos.
Tu nous donneras le titre, on mettra le lien sur la page de Brasero pour qu'on puisse regarder le clip.
Sao là mình khốn lớn từ lời ru Mình mạnh mẽ tự kiêu lăng Ngựa quen gừng cay môi mặn Chẳng cần phải quyến quyết cao sang Nhưng ta vẫn hiên ngang Ngồi trên ngai như ngài Ở trên ngôi giữa bầu trời tương lai Mình ta hát ca vang trời Ngồi trên ngai như ngài Ở trên ngôi tự hào là người Việt Nam Quan tâm châu Á qua bao đời
Et on est de nouveau en direct sur le plateau de Brasero à Canal Sud 92.2. Et l'émission arrive à sa fin. C'est passé très très vite. C'était vraiment passionnant de vous écouter. Merci d'être venu. Et on se disait que peut-être on pourrait faire un petit point des choses que vous avez envie de rajouter qui sont importantes à dire ou des événements qui arrivent là les prochains temps à Toulouse ou ailleurs.
Du coup, nous, on veut juste ajouter par rapport à tout ce qui s'est dit tout à l'heure par rapport au collectif, on aimerait ajouter que le procès de Trintonia est quand même assez coûteux financièrement et on a toujours besoin de soutien financier. Il y a une cagnotte en ligne, donc n'hésitez pas si vous voulez participer ou même si vous vous intéressez à la cause, n'hésitez pas à nous contacter, ça nous fait plaisir.
Pareil, on mettra le lien, je ne sais pas si vous avez un site web, un Insta, des réseaux, sur la page.
Et ben, nous, on aimerait bien inviter tout le monde à venir le 14 mars à une manifestation contre les violences d'État, les racismes et les fascismes. C'est une manifestation qui est à l'appel national de la Marche des Solidarités, qui c'est un groupe qui rassemble plusieurs collectifs des sans-papiers à Paris. Et il y a vraiment cet appel à manifester partout en France. Et à Toulouse, ça sera le 14 mars, 14h30, départ métro François Verdier. Venez nombreux et nombreuses.
Et tout à l'heure, j'avais parlé de la projection de Lead qui aura lieu le 16 mars au Cratère. Et c'est dans le cadre de Ciné Palestine qui commence dès le 9 mars, je crois. Le 7 mars, il y a une soirée concert et dès le 9 mars, il y a des projections. Donc n'hésitez pas à aller voir la programmation qui est assez chouette.
Ben, merci beaucoup. Ah, il y a...
Je vais juste rajouter que ce week-end, c'est le 8 mars, c'est le 7 mars. Voilà, je suis obligée de le dire. Donc le 7 mars, je crois qu'il y a une sorte de village associatif et tout, devant la Bourse du Travail, à la Bourse du Travail. Et le 8 mars, alors je n'ai pas l'info s'il y a une manif de nuit, le 7 au soir en mixité choisie. Je n'ai pas eu d'infos, mais souvent c'est ça, c'est pour ça que je le dis, c'est la tradition. Donc peut-être qu'il va y avoir une manif de nuit en mixité choisie le 7 mars au soir. Et le 8, c'est la manif du 8 mars. Et je crois que le rendez-vous, c'est à 11h du matin dimanche. je crois que c'est à Jeanne d'Arc, le rendez-vous. Voilà, pour le rendez-vous des 7 et 8 mars, c'était obligé.
Eh bien, merci beaucoup. Et Brasero revient le 23 février.
Et merci à mars. Vous pour l'invitation.
Excusez-moi, le 23 beaucoup. Mars, pardon, février c'est déjà passé.
Merci beaucoup à vous pour l'invitation, franchement.
Bah avec plaisir.
Merci beaucoup.
Merci.
Bonne soirée.